Barack Obama dans les pas de Kennedy. Le président américain a déclaré cette semaine vouloir envoyer des hommes sur Mars avant 2030. Ce genre de projet titanesque, c'est ce qu'on appelle un moonshot, un tir vers la Lune à l'image du projet Apollo. Autrefois l'apanage des États, ils sont de plus en plus celui des sociétés privées. Et puis nous parlerons de l'eau. De l'eau, il y en a partout sur Terre bien sûr, mais aussi dans l'espace juste à côté de chez nous, sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et qui dit eau dit peut-être vie. Les moonshots passent au privé et de l'eau partout dans l'espace. Ce sont deux des problèmes que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et c'est donc notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous sommes donc en compagnie de journalistes et vulgarisateurs émérites, à commencer par Hervé Poirnier. Bonjour.
Bonjour Nicolas Martin.
Rédacteur en chef de notre partenaire chéri Science et Vie, Loïc Mangin. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Rédacteur en chef adjoint de Pour la Science, et nous avons le plaisir d'accueillir également Sébastien Carassou. Bonjour.
Bonjour.
Alias le Sense of Wonder, qui est le nom de votre chaîne YouTube, principalement consacrée à l'espace et à l'astrophysique. Bienvenue à tous les trois. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez également nous suivre sur Twitter en direct @laméthodefc. Mais avant de nous lancer dans ces débats à corps perdu, on commence comme chaque vendredi avec le journal des sciences de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Nicolas.
Le journal des sciences.
Et on commence, comme je le disais tout à l'heure en présentation de cette émission, par de l'eau après Europe, après Ganymède. Voilà donc qu'il y aurait de l'eau sur un satellite de Saturne cette fois. Dionée, Xavier.
Oui, Dionée, un des 62 satellites de Saturne. Il est petit, à peu près 1100 km de diamètre, mais il aurait effectivement un océan d'eau liquide de 100 km de profondeur environ sous sa croûte glacée. Ce sont les scientifiques de l'Observatoire Royal de Belgique qui l'ont découvert. Ils connaissaient déjà la cartographie de Dionée, mais en fait ils ont réutilisé ce qu'on pourrait appeler la vieille sonde maintenant Cassini, en orbite depuis 12 ans autour de Saturne, pour produire de nouvelles images et surtout de nouvelles données gravitationnelles, c'est-à-dire étudier les légères variations de l'orbite de la sonde. Cette annonce est donc intéressante. La présence d'eau liquide est avérée sur deux satellites de Saturne, déjà Titan et Encelade, en voilà un troisième. Et puis cette découverte vient s'ajouter, vous l'avez dit, à une série d'autres au sujet d'Europe, un des satellites de Jupiter, de Proxima B, on en parlait la semaine dernière, la plus proche des exoplanètes. Alors on savait déjà l'espace plein d'eau, en un sens, H2O est assez aisé à trouver. Mais pourrait-elle être beaucoup plus présente qu'on ne le croyait à l'état liquide sur des astres aperçus et perspectives par le planétologue à l'Observatoire Royal de Belgique et co-auteur de l'étude, Michael Beuth.
On essaie d'expliquer à la fois le champ gravitationnel de la planète et la forme de la planète. Enfin, je parle de planète, mais de la Lune dans ce cas-ci. Et normalement, le champ gravitationnel dépend de la forme. Mais on remarque ici que les anomalies gravitationnelles sont beaucoup plus petites que celles prédites par le relief observé à la surface. Donc, on en déduit qu'il y a aussi un relief sous-marin. Donc, il y a une interface de densité à l'intérieur entre la glace et l'eau qui change l'anomalie gravitationnelle observée par la sonde. Donc, la couche de glace fait à peu près 100 km, l'océan fait à peu près 60 km et le reste, c'est le noyau rocheux. On peut s'attendre à des océans dans beaucoup de ces satellites. On a fait des modèles d'évolution, des modèles thermiques et qui nous donne une certaine idée qu'on peut avoir un océan dans les satellites. La présence d'eau liquide est une condition sine qua non jusqu'à présent d'habitabilité. Le problème, bien sûr, est celui de l'accessibilité. Comment peut-on tester maintenant s'il est véritablement habité? Donc pour Dionée, cela semble assez difficile vu l'épaisseur de la couche de glace. Par contre, pour Encelade, on a des geysers qui sans doute proviennent directement de l'océan, qui ne se trouveraient qu'à quelques kilomètres sous la surface au pôle sud. C'est aussi un résultat de notre étude. Mais malheureusement, il n'y a pas de mission prévue vers Saturne, ni vers Uranus ou Neptune, où il pourrait aussi se trouver d'autres mondes océaniques. Donc pour l'instant, c'est plutôt Europa qui serait candidat, Encelade aussi. Maintenant, il ne suffit pas d'être un monde océanique, avoir un océan souterrain, pour remplir les conditions d'habitabilité. Plus Pluton ne serait certainement pas un bon candidat non plus, même s'il y a peut-être un océan sur Pluton.
Voilà, est-ce que cette eau dans les satellites autour de Jupiter et de Saturne remet en question la notion de zone d'habitabilité ? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure, Xavier, avec nos invités. En bref, après Kennedy et la Lune, Obama et Mars.
Oui, Obama dans une tribune sur CNN qui annonce vouloir poser des hommes sur Mars. Le projet est à peu près le même que pour Kennedy, l'emphase aussi. Poser des hommes donc et les faire revenir en sécurité. Mais surtout, l'aventure va beaucoup plus loin. Mars, c'est 225 millions de kilomètres, donc 1000 fois plus loin que la Lune. Et puis, il s'agit surtout à terme d'y rester pour une longue durée, écrit Barack Obama. La NASA aurait la main sur le programme avec son super lanceur, vous l'avez entendu, SLS, mais elle mise surtout beaucoup sur un partenariat avec les constructeurs privés, puisque 6 d'entre eux, dont Boeing et Lockheed, doivent présenter des modules habitables d'ici 2018 afin de les tester, d'où le coût étonnamment faible de ce développement, pour l'instant 65 millions de dollars, dont 20 millions payés par le privé.
Et la Lune, justement, se fait des gommages express tous les 80 000 ans.
Et oui, on pouvait donner jusqu'ici à la surface de la Lune l'âge de 95 millions d'années, c'est-à-dire au moment de sa formation, mais en fait, elle serait beaucoup plus jeune, elle se renouvelle tous les 80 000 ans, en fait, sous l'effet d'un bombardement continu de petits astéroïdes. Alors pourquoi n'avait-on rien vu avant ? Les scientifiques de l'Université d'État du Texas qui ont fait cette découverte ont travaillé en fait à partir de photographies de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, des photographies de très haute précision, autrement dit, il suffisait de voir mieux et plus près les astres plus petits qui bombardent constamment la Lune, donc des roches de quelques centimètres à quelques mètres, mais sans atmosphère pour les freiner et atténuer l'impact. Deux conséquences, donc la surface de la Lune avec 180 bombardements par an est donc plus jeune, mais aussi plus dangereuse qu'on ne le croyait.
Et pour finir, en bref toujours, avec l'espace, l'univers est plus encombré que ce qu'on pensait.
Et oui, 2000 milliards, là c'est le chiffre avancé par une équipe de l'université de Nottingham en Grande-Bretagne, 2000 milliards de galaxies, 10 fois plus que ce qui était admis par la communauté des astrophysiciens. Alors encore une fois, c'est Hubble, le télescope, qui a principalement servi à cette découverte pour produire une carte en 3D de l'univers visible et moins visible. Mais attention, ce ne sont pas de nouvelles mesures, il s'agit bien d'une étude statistique qui extrapole en fait des données bien compilées sur l'univers connu. Pas sûr donc que le chiffre de 2000 milliards de galaxies fasse rapidement consensus. D'ailleurs, l'année dernière, deux physiciens du Michigan avaient affirmé qu'il y avait 10 fois moins de galaxies, soit 20 milliards. Là aussi, ils avaient utilisé une méthode statistique.
Un mot, Sébastien Carassou, sur cette information.
Alors, ça ne fait pas encore consensus, donc forcément, c'est difficile.
Deuxième sujet du jour, Xavier. Les abeilles sont-elles sur le point d'être sauvées ?
En tout cas, la résilience, c'est le terme qu'a choisi le magazine La Recherche pour évoquer plus de 3 décennies d'études et de tentatives pour prévenir la surmortalité qui affecte les colonies d'abeilles depuis les années 80. Surmortalité bien connue sous le nom inquiétant de syndrome d'effondrement des colonies. Alors, pesticides, parasites, pratiques agricoles, les causes sont multiples et commencent à être bien identifiées. Mais les remèdes sont longs à mettre en place. Les dernières études de cette année révèlent toujours une mortalité importante et une grande sensibilité, notamment aux pesticides dits néonicotinoïdes, parce qu'ils contiennent des dérivés de nicotine. Et l'analyse, par exemple, de 18 ans de données en Grande-Bretagne en août montre qu'elles sont 3 fois plus affectées, ces abeilles, par les colzas traités avec ces fameux néonicotinoïdes. En France et aux États-Unis, ces pesticides font l'objet d'une lutte économique et juridique, mais les parasites, qui sont aussi une des causes majeures de mortalité des abeilles, sont également visés. Et là, la biologie intervient, notamment pour fabriquer des abeilles plus résistantes au varroa, le parasite qui met entre 6 mois et 2 ans pour tuer une colonie entière. Écoutez Fanny Mondet, elle est ingénieure de recherche à l'INRA d'Avignon.
Le varroa, donc, c'est un petit peu comme un vampire, il se nourrit du sang des abeilles adultes et aussi des jeunes abeilles. Donc la conséquence, c'est que ces abeilles vont naître plus légères, elles vont avoir une durée de vie limitée. Et un deuxième facteur très important, c'est que ce parasite, le varroa, il est associé avec un certain nombre de virus qui peuvent, eux, avoir des conséquences très graves pour les abeilles et conduire à leur mort. Sur le varroa, on essaye d'intervenir, notamment en essayant d'avoir des abeilles qui, naturellement, vont être capables de mieux lutter contre le parasite. On a remarqué que, en fait, il y a un certain nombre d'abeilles qui, même lorsqu'on ne les traite pas contre le varroa, sont capables de survivre. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver des signatures dans le génome des abeilles qui permettent d'expliquer pourquoi elles résistent ou pourquoi elles ne résistent pas. Et l'idée ensuite, ce serait de faire un outil de diagnostic à destination des apiculteurs. Mais évidemment, c'est très difficile aujourd'hui de hiérarchiser les facteurs de stress qui impactent les colonies entre les maladies, la pression chimique, la destruction de l'habitat, le manque de nourriture, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces facteurs fragilisent les abeilles. Et par exemple, une abeille qui va être parasitée par le varroa, elle est un petit peu fragilisée, elle va pas forcément mourir, mais peut-être qu'ensuite elle va être plus sensible à l'exposition à un pesticide, et in fine, cette exposition-là va peut-être la faire mourir. Ça veut pas forcément dire que c'est l'exposition au pesticide qui directement l'a affectée.
Voilà Fanny Mondel, l'INRA d'Avignon. J'ajoute que sur le plan politique pour la France, l'interdiction des néonicotinoïdes entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
Et un droit de réponse maintenant, Xavier. Et suite à l'émission de lundi, la méthode scientifique qui était consacrée à la vaccination.
Oui, à la méfiance aussi, voire la défiance qui se développe depuis des années dans une partie de la population et du corps médical. Il était notamment question de Romain Guérardi, qui est spécialiste des maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri Mondor et qui est depuis des années acteur d'une controverse sur les effets secondaires des vaccins, des sels d'aluminium en fait utilisés comme adjuvants. Et il ajoute qu'il ne veut pas être classé comme un détracteur borné des vaccins. En fait, il tenait à donner quelques précisions sur sa position. Disons pour une recherche préventive. Écoutez Romain Guérardi.
Plutôt que de nier farouchement l'existence d'effets secondaires des vaccins, qui est une manière de ne pas traiter le problème, il faut au contraire que les agences sanitaires se saisissent des signaux et les traitent de façon proactive et financent de la recherche sur le sujet, parce que quand on comprend les mécanismes, c'est la solution qui est à terme. Par exemple, l'ANSM, l'agence actuelle de médicaments, a débloqué 150 000 euros en 2013 pour nos recherches. Eh bien, le résultat immédiat, ça a été l'identification des premiers gènes de susceptibilité qui explique la difficulté de ces individus à évacuer l'adjuvant de leur système immunitaire. Et donc, ça prépare la vaccinologie individualisée qui donc est fondée sur la détection des familles ou des individus qui vont avoir une intolérance aux adjuvants aluminiques et qui sont forcément une petite proportion. Mais donc, c'est ça le sens de mon livre, c'est de dire, plutôt que d'évacuer le problème et dire il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose, il faut dire il y a quelque chose et on traite de façon proactive la question parce que quand on aura éclairci la question, on va trouver la solution.
Voilà, et pour finir Xavier, la science improbable du jour, vous nous dites tout sur un rat taupe qui n'a jamais mal. C'est un peu vous ça, non?
Eh oui, tout...
non, c'était pas très gentil.
Non, tout le monde le connaît, en tout cas au moins en cauchemar. C'est le rat taupe nu, rat parce qu'il fait la taille d'un gros rat, 10 à 30 cm. Il a deux paires d'incisives très longues qui dépassent du museau un peu comme un bec. Taupe parce qu'il vit sous terre et nu car il est complètement glabre ou presque. La peau blanche, un peu flétrie. C'est d'ailleurs son nom, Hétérocéphalus glabère. Il est presque sans yeux ou oreilles. C'est une sorte d'embryon souterrain avec des grosses pattes en pelle pour creuser. Eh bien, après une série d'expériences comparatives avec des souris, des chercheurs allemands se sont aperçus que ces bêtes ne ressentaient pas la chaleur et que cela était dû à la modification d'un de leurs gènes lié à un récepteur sensitif. Rassurez-vous donc, ce sont des expériences de biologie moléculaire, il ne s'agissait pas de mettre le feu aux rongeurs et c'est une évolution génétique en tout cas bien pratique pour un peuple qui vit en colonie sous terre où il fait très chaud et évolution qui vient ajouter une caractéristique surprenante à celle que l'on connaissait déjà, morphologie. Social, biologique. Jusqu'à l'année dernière, on croyait encore qu'il résistait d'ailleurs au cancer. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait donc presque tout. Autrement dit, Nicolas, le rat est nu.
Xavier, je vous laisse retourner dans votre colonie et vous pouvez retrouver le journal des sciences. Non, désolé Xavier, vous pouvez retrouver le journal des sciences comme chaque semaine sur le site franceculture.com.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Allez, on reprend notre sérieux, c'était franceculture.fr et pour débattre de l'actualité de la semaine, nous sommes donc en compagnie d'Hervé Poirier de Science et Vie, Loïc Mangende pour la science et de Sébastien Carassou du Sense of Wonder sur YouTube. Vous l'avez entendu dans le journal des sciences, Barack Obama a donc annoncé cette semaine dans une tribune sur CNN que nous avons un but pour écrire le prochain chapitre de l'histoire américaine, envoyer des humains sur Mars vers 2030 et les ramener sains et saufs sur Terre avec l'ambition ultime d'y rester pour de bon, une tribune qui ne manque évidemment pas de rappeler celle-ci.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Voilà, les termes sont quasiment exactement les mêmes. Hein. C'était le discours, vous l'avez reconnu peut-être, de John Kennedy le 25 mai 1961, soit un an après son élection. Le président américain se laissait à l'époque 10 ans seulement pour envoyer des hommes sur la Lune et les ramener sur Terre. La NASA accomplira cet exploit en 7 ans seulement. En lançant donc cet appel à la fin de son mandat, Barack Obama laisse à ses successeurs un peu plus de temps hein, puisque son horizon est 2030. Les États-Unis l'ont fait dans les années 60, le feront-ils en moins de 15 ans? À votre avis, messieurs, les États-Unis, la NASA a-t-elle les moyens aujourd'hui d'envoyer des hommes sur Mars et de les faire revenir dans moins de 15 ans, dans 14 ans, hein, 2030, Sébastien Carassou?
Eh bien, en tout cas, elle essaye d'y mettre autant de moyens que possible. Et ça, c'est clairement l'un des objectifs marqués de la NASA, qui est d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2023. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça se porte un peu en porte-à-faux avec l'annonce d'Elon Musk, qui l'a fait... Il y a 2 semaines, cette annonce d'un plan de colonisation de Mars d'ici 2023.
Le patron de SpaceX,
absolument,
qui est une compagnie privée.
Qui est une compagnie privée et qui entre directement en concurrence avec la NASA en faisant cette annonce. Ça annonce quelques tensions entre la firme d'Elon Musk et de la NASA. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner, sachant que la NASA est sa principale source de financement.
Hervé Poirier, vous y croyez, vous, à 14 ans, des hommes aller-retour sur Mars?
Je ne sais pas si beaucoup de gens croyaient à l'époque où Kennedy a fait son annonce à la réussite du projet. Je me garderais bien, moi, d'avoir un avis sur le fait que ça va se réaliser ou pas. Ce que je remarque juste, c'est que c'est évidemment ça fera partie, si ça arrive, de l'histoire américaine. Je ne suis pas sûr que ça fera partie de l'histoire scientifique. Le projet n'est pas scientifique, il est plutôt l'aventure humaine, le récit collectif. Et c'était une grande part du projet de Kennedy aussi. Mmh. Mais les défis techniques à l'époque de Kennedy étaient sans doute... Il y avait plus de probabilité d'échec, j'imagine. Je pense ici, c'est quand même une aventure politique. Psychologique,
c'était
collective.
C'était aussi très très politique à l'époque de Kennedy. Hein,
absolument.
En pleine guerre froide, il fallait être les premiers.
Envoyer des hommes dans l'espace, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un but scientifique derrière. C'est depuis... ça fait longtemps que à Sciences Vie, on a analysé le problème de l'homme dans l'espace, qui est un vrai problème. Les conclusions à chaque enquête ont été ça ne sert à rien d'envoyer un homme dans l'espace au-delà d'une aventure politique, au-delà d'une aventure psychologique. Mais si c'est pour trouver des choses sur Mars, c'est sûrement pas l'homme qu'il faut envoyer.
Loïc Mangin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette aventure?
Bon, déjà, je peux rebondir sur l'émulation avec SpaceX. Voilà, je parle d'émulation, je parle pas de concurrence, et chacun va y aller de son innovation, de sa technologie, de ses progrès, de ses idées, pour finalement réussir à damer le pion à l'autre. Par ailleurs, on a la NASA qui s'est associée cette fois avec 2 partenaires privés, d'après ce que j'ai bien compris, Boeing et Lockheed.
C'est ça.
Donc,
Lockheed Martin.
On n'est déjà pas complètement dans du privé, du public, pardon. Quant à y croire, on verra, quoi. Il y a sans doute besoin de quelques technologies disruptives en termes de moteurs de propulsion, d'habitat. On a besoin aussi, je pense, de résultats psychologiques, parce que les quelques hommes ou femmes qu'on va envoyer là-bas, je pense que ça va pas être facile pour eux.
La NASA vient de terminer. Hein, on a reçu ici même Cyprien Verseux, qui a passé 366 jours enfermé pendant un an à 6, quelque part perdu au fin fond du Nevada ou du Colorado, je me souviens plus. Donc il y a des expériences qui sont déjà en cours.
Voilà,
sur
mais ça,
le,
ça
sur
reste
facteur
une
humain. Simulation.
Je suis pas sûr que vraiment une fois dans la fusée, ce soit aussi facile que ça.
Ce qui est intéressant, puisque vous parlez d'émulation, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant la faisabilité de ce projet, mais le projet en lui-même. Hein, je le disais en introduction, ces projets, on appelle ça des moonshots, littéralement des tirs vers la Lune. Du coup, à l'époque de Kennedy, on était dans un contexte politique particulier où il fallait que les États-Unis fassent ça mieux, plus vite que la Russie dans un contexte politique. Aujourd'hui, finalement, l'opposant ou la concurrence ne vient plus et n'est plus géopolitique ou géostratégique. Elle est interne. C'est une concurrence entre le public et le privé. Ça change quand même beaucoup, beaucoup le paradigme. Je vous vois hésiter un peu.
Oui, en ce moment, finalement, on parle à nouveau de résurgence de la guerre froide. Ça va peut-être se calmer, c'est peut-être pas la même ampleur qu'il y a 50 ans, mais par ailleurs, outre la Russie, il y a d'autres grands candidats qui veulent s'affirmer en tant que puissance très forte. Ça peut être la Chine, l'Inde aussi, par exemple. Donc, il y a peut-être un petit arrière-fond de ce niveau-là.
Mais enfin, il n'y a plus du tout la Russie ou il n'y a pas d'autres. Alors, la Chine, peut-être, mais pour le moment, la Chine n'a pas fait d'annonce fracassante de colonisation de Mars. Hervé Poirier, si ?
Non, mais d'où la question ?
Oui, voilà, c'est
pourquoi, ça. Pourquoi aller envoyer des Américains sur Mars ? C'est sans doute une des questions les moins clés. Elle est sans doute plus difficile à répondre que vont-ils y arriver. C'est des raisons scientifiques, des raisons d'exploration des ressources, des raisons d'aventure humaine, des raisons politiques. Cette question-là me semble la plus trouble dans les propos de Mamba.
Sébastien Carassou, pourquoi alors à quoi ça rime aujourd'hui de produire ce genre de moonshots, donc de grands projets civilisationnels, bigger than life, plus grand que nature? Quel est l'intérêt pour vous qui êtes astrophysicien?
Je pense que l'intérêt, il est essentiellement inspirationnel, dans le sens où la génération Apollo a généré pas mal de dérivés et a généré énormément de carrières scientifiques et techniques à la suite d'Apollo. De nombreuses personnes se sont revendiquées de cette génération Apollo et encore aujourd'hui se réclament de cette inspiration face à l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, on pense que il y aurait des applications qui seraient dérivées de ce genre d'exploration.
De projets titanesques, donc de moonshot, oui.
De moonshot, absolument. Et ces projets pourraient bénéficier, ici même sur Terre, le fait même de faire des habitats vie qui soient coupés du reste de l'extérieur du vaisseau, serait une grosse avancée pour permettre à l'humanité d'évoluer dans un contexte fermé.
Hervé Poirier ?
Là, on se rapproche peut-être plus de projets politiques d'Elon Musk que de ceux d'Obama, qui, lui, rêve un petit peu d'une terraformation de Mars et de pouvoir y installer les hommes une fois que la Terre ne sera plus habitable. Mais donc, c'est un projet politique privé, typiquement. Et est-ce qu'Obama reprend ce projet politique ? Moi, je n'ai pas vraiment saisi si le but était de dire il va bien falloir qu'on sorte de cette Terre. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais il y a quand même ce danger-là aussi potentiel. Un, de polluer Mars. Je rappelle que les dernières estimations sont autour de 1 milliard de bactéries humaines qui sont vivantes sur Mars, sous la forme de spores. Donc Mars est déjà pollué de partout. Multiplier les explorations privées avec peut-être des protocoles de décontamination qui, insuffisants, risquent de toute façon d'amener des choses, de polluer Mars en un sens. Et si le but est de faire de Mars le prochain habitat de la Terre, sans doute qu'il faut que ça soit un projet politique sur lequel tout le monde débatte. Certains ont peur que ça puisse démobiliser les efforts faits sur Terre. Enfin, en tout cas, j'ai du mal, moi, à me positionner sur les propos de Mamba, et techniquement, et politiquement, car c'est encore trop flou.
C'est-à-dire qu'à votre avis, c'est finalement ces grands projets aujourd'hui, contrairement à l'ère Kennedy, où il fallait le faire parce qu'il y avait une urgence géopolitique, géostratégique et technologique aussi, hein, parce qu'on a, en envoyant l'homme sur la Lune, la NASA a fait des progrès technologiques immenses. Aujourd'hui, on est passé dans une ère communicationnelle, c'est-à-dire qu'il faut parler plus fort qu'Elon Musk, finalement Elon Musk, dire faut parler plus fort que le privé, faut dire les États ont encore les moyens souverains de construire ces grands projets, ces grands moonshots, à votre avis, Loïc Mangin? C'est la communication politique.
Il y a sans doute cet aspect-là, mais on peut aussi avoir une vision positive, peut-être naïve, hein, mais de réenchanter un petit peu. Quoi. Tout le monde se souvient, enfin ceux qui étaient nés à cette époque-là, se souvient ce qu'ils faisaient le jour où l'homme a mis les pieds sur la Lune. Peut-être que dans 14 ans, peut-être 20, peut-être 30, on aura à nouveau ce même genre d'histoire de communion mondiale, même plus nationale à ce niveau-là, mondiale.
Vous rejoignez l'hypothèse de Sébastien Carassou qui dit que c'est avant tout inspirationnel,
oui, voilà,
pour toute une génération. Oui, Hervé Poirier.
Et puis, évidemment, pardon, vas-y.
Oui, Hervé, allez-y.
Mais dans ce cadre-là, le fait que des privés participent à l'aventure ne me semble pas flétrir la beauté du geste. Ce qui me semble plus dangereux peut-être, c'est que le privé soit à la tête d'aventures scientifiques, voilà. Non pas dans l'espace, mais dans l'intelligence artificielle, dans la médecine, dans la génétique, dans la santé, où là, les objets politiques peuvent être beaucoup plus explosifs, beaucoup plus dangereux. Que Elon Musk et que Jeff Bezos avec Amazon. Investissent leur argent personnel qui est incommensurable, enfin qui est d'une ampleur
qui est gigantesque. Ce sont les moyens d'un État. Hein. On a les moyens quasiment d'un État.
Qu'ils le fassent pour des rêves un peu d'enfant, avec la tête dans les étoiles, et on voit bien que ça berce leur jeunesse à eux. Donc ils sont évidemment dans cette réalisation d'un fantasme. Très bien, moi je dis pourquoi pas. Que IBM, que Apple, que Facebook aient la maîtrise des outils de l'intelligence artificielle et l'exclusivité, parce que les États, c'est pas sur les moyens qu'ils ont qui sont à la traîne, c'est sur la compréhension de la technique, c'est sur l'expertise. Ça me paraît beaucoup plus dangereux.
Alors, on va y venir, parce que les moonshots, ça ne sont pas que des projets dans l'espace. Par exemple, Obama a lancé un autre moonshot, ce qui est curieux, parce que moonshot, on se dit que ça ne devrait pas avoir de pluriel. On mobilise toutes les forces d'un état technique pour un projet, pas pour plusieurs. Obama a lancé au début de l'année un autre moonshot sous le patronage de Joe Biden, qui a pour objectif de soigner le cancer en 2022. Donc, on est là, dans le registre, dans le domaine de la santé, peut-être de la communication. La question que vous soulevez, Hervé Poirier, est à mon avis celle qui est intéressante, c'est-à-dire de se dire que sous Kennedy, on fait ça pour des raisons géopolitiques stratégiques, parce que l'opposant, la concurrence, elle est étatique, elle est politique, elle est idéologique. Ici, maintenant, la concurrence dans le soin pour le cancer, dans la course à l'espace, elle est privée, ce sont des grandes compagnies. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de se dire que les moonshots sont entre les mains d'entrepreneurs, d'acteurs privés, donc avec des intérêts économiques? Ça, on est vraiment face, là, pour le coup, à un changement d'époque, à un changement de paradigme, Loïc Mangin.
On peut déjà rappeler qu'il y a déjà eu un plan cancer, c'était Nixon qui avait dit, dans 10 ans, on guérira le cancer. J'ai bien peur qu'il ait perdu.
Ça a moins bien marché, oui.
Ouais. Donc, effectivement, là, que les États-Unis se relancent là-dessus, pourquoi pas. Là, cette fois, ils répondent plutôt à Facebook et à Mark Zuckerberg, qui a prévu 3 milliards pour guérir, lui, pas le cancer.
Toutes les maladies.
Mmh. C'est très ambitieux. Là, pour le coup, j'y crois beaucoup moins que l'homme sur Mars en 2030, quoi.
C'est pour 2100, il dit. C'est pour 2100, donc il se donne
2100,
aussi...
ouais. Ouais.
Ça, c'est un peu plus...
D'accord.
Peu plus
donc, entre-temps, il faut que Google soit passé avec son immortalité, quoi, pour voir ça.
Google qui fait, en 2013, la une du Time, Can Google Cheat Death, est-ce que Google peut tromper la mort? Ça nous dit quoi, cette société dans laquelle toute avancée majeure, tout projet futuriste ne peut plus être porté que par des intérêts privés, et où une société où les États ont été privés, finalement, eux, de leurs moyens de modifier, de forger l'avenir, Sébastien Carassou?
Alors, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, historiquement, la science a quasiment toujours été financée par des riches individus ou des industriels. Mmh. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et le succès du projet Manhattan qui va faire entrer les gouvernements, la science au cœur des responsabilités des gouvernements. Mmh. Et la science, elle vous assure un rayonnement international, elle vous permet de développer des fusées, des radars et des bombes atomiques, donc forcément, et d'envoyer des hommes sur la Lune aussi. Et donc, j'y vois une résurgence de cette envie des privés de s'accaparer les connaissances et les découvertes que ça pourrait engendrer.
Il y a toujours eu des grands philanthropes ou des grands mécènes ou des acteurs privés qui mettent de l'argent. Mais là, aujourd'hui, ce sont eux qui façonnent les grands projets d'avenir. Il y a quand même un peu un changement de paradigme malgré tout, Hervé Poirier, non?
Mais la fondation Bill Gates, depuis de nombreuses années, change le mode d'action de la santé, en particulier dans les pays en voie de développement. C'est devenu l'acteur majeur de la santé publique dans de nombreux pays. Je suis peut-être un peu mal à l'aise à me dire Bill Gates, en ce sens-là, fait le mal. La fondation Gates, c'est très compliqué de voir toutes les conséquences de la privatisation de l'action envers les malades des pays les plus pauvres. Je suis quand même plus inquiet, moi, sur Watson, l'intelligence artificielle de Microsoft.
Watson, c'est IBM. C'est IBM, Watson.
Watson, c'est IBM, pardon. Ouais. Cortana,
c'est l'assistant de Microsoft.
Il y a Siri de Apple, enfin, ça. Facebook.
Ce sont les assistants personnels, donc l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning, dont on a parlé déjà ici.
Donc celle de Facebook aussi. Donc là, il y a quelques monstres qui sont, à mon avis, assez singuliers, qui seront peut-être des objets singuliers, ou en tout cas, les États n'ont aucune prise sur les technologies qui sont à l'intérieur. Il y a une totale privatisation de la pointe de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui pour moi est une des plus grandes inquiétudes sur la privatisation du savoir et ces moonshots de l'avenir.
Vous êtes d'accord, Loïc Mangin? Oui.
Parce que le biais initial est en fait que tous ces énormes projets ont comme matière première, finalement, ce que nous, on leur fournit en tant qu'individus. Mmh. Au niveau santé, par exemple, toutes les applications qui suivent notre course, notre rythme cardiaque, notre respiration, c'est avec ça, finalement, qu'ils nourrissent tous leurs projets. Quoi.
Et ces données, d'habitude, sont publics, ou en tout cas appartiennent aux organes publics. La nouveauté, en effet, c'est qu'il y a une privatisation de ces données et de l'utilisation de ces données.
Et les gouvernements, finalement, négligent ça complètement et devraient se les réapproprier. Quoi.
Est-ce que vous imaginez justement un réinvestissement des acteurs publics dans ce type de grands projets, dans ce type de grands projets de santé? Parce qu'on parle de Google qui veut je traduis littéralement, supprimer la mort. On parle de Facebook qui veut supprimer les maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, les États ont les moyens de tenir la course face à l'ampleur et aux moyens de ces acteurs ou de ces opérateurs privés. Sébastien Carassou, faites don de la tête. Donc, sur vous que ça tombe.
Non, je pense que les gouvernements ont clairement les moyens de le faire, mais ils n'ont pas forcément la volonté. Et les industries privées ont cette volonté que les politiciens n'ont pas. Et dans un contexte où beaucoup de politiciens montrent une incompréhension de la méthode scientifique et de l'esprit critique qui sont nécessaires pour financer ces projets, on assiste aujourd'hui à une augmentation de la méfiance vis-à-vis des sciences et en particulier au niveau des sciences de l'environnement et de la médecine. Et dans ce contexte, les fonds privés, ils peuvent être salvateurs pour, dans un contexte de recherche pure.
Il y a un rapport de l'UNESCO sur la science qui a été publié au mois de novembre, qui est traduit en français depuis pas très longtemps, qui s'appelle Vers 2030, pour la science vers 2030. Ce rapport, il constate qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération de philanthropes, donc on en parlait, les philanthropes, c'est pas nouveau, mais une nouvelle génération qui exerce une influence majeure sur la recherche américaine. D'aucuns dénoncent cette influence qui fausserait les activités de recherche en les mettant au service des intérêts personnels, du patronat fortuné et des universités prestigieuses que la plupart de ces milliardaires ont fréquentées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, dans la réappropriation et dans l'absence de contrôle, ça veut dire que finalement, on en est à ce patron de Google qui dit, moi, mon objectif, c'est pas de supprimer, c'est pas de retarder la vieillesse pour le bien commun, c'est parce que moi, je veux pas mourir. Donc, on commence à flirter avec des Frankenstein modernes, à votre avis, Hervé Poirier?
Heureusement, il a promis de jamais faire le mal.
Est-ce qu'il faut faire signer Mark Zuckerberg une charte internationale en promettant de ne jamais faire le mal et d'être malveillant?
Mais c'est sûr que là, il y a la résonance entre le projet transhumanisme ou de l'homme augmenté qui touche beaucoup la côte ouest des États-Unis, là où il y a justement tous les GAFAMI, Google, Apple, Facebook et consorts. Et en effet, la privatisation des travaux sur la santé peut le prix sera tel qu'il pourra concerner que les riches qui ont eu les moyens de la financer. La question est sans doute assez pertinente sur ce point.
Sur l'individuation, Loïc Mangin.
Moi, j'avais plus envie de rebondir sur, en fait, en plus, le côté un peu secret de toutes ces recherches, parce que donc on a parlé des différents projets, mais Google a par exemple cette espèce d'énorme laboratoire secret qui s'appelle X maintenant.
Oui, qui s'appelle.
fourbit différentes technologies complètement révolutionnaires. Typiquement, je crois qu'une des dernières qui a entre guillemets fuité serait cette histoire de nanoparticules magnétiques qu'on s'injecterait dans le sang et qui pourrait guérir à nouveau le cancer. Donc il y a une espèce de climat autour qui est un peu désagréable. Enfin, ça sent le complot, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'est pas rendu public, que c'est des endroits qui sont extrêmement surveillés, extrêmement protégés du fait des brevets, de la possibilité de générer de l'argent à partir de ça, Hervé Poirier, vous vouliez réagir?
Non, je vais. Et ce qui touche la science touche sans doute beaucoup de domaines de cette prise de... Enfin, la montée en puissance des individus face au collectif, c'est sûrement un phénomène qui traverse bien au-delà la société, bien au-delà des projets scientifiques.
Sébastien Carassou.
Alors là où le débat il se complique, c'est qu'il est aussi social, parce que quand les gouvernements financent la recherche, ils essaient de s'assurer que l'argent ne profite pas qu'aux institutions phares et bien établies. Et donc, quand des philanthropes ou des institutions privées vont avoir tendance à donner aux universités d'excellence comme Harvard, le MIT ou Princeton, ils vont financer des sujets qui les touchent personnellement.
Voilà,
et ça va créer une inégalité dans le monde de la recherche.
Oui, c'est l'un des problèmes que pointe ce rapport de l'UNESCO. Hein, c'est dit, ces gens-là, donc ces individus, vont financer quoi? Les choses qui les intéressent eux ou les universités d'excellence desquelles ils sont issus, ce qui va de facto créer en plus une sorte de gap entre les universités privilégiées par ces acteurs privés et les autres qui ne vivent que sur fonds publics ou sur le financement de leurs propres étudiants. Néanmoins, pour essayer de mettre un peu un bémol là-dedans, le rapport de l'UNESCO dit également que certains groupes privés interviennent aussi lorsque l'État fait défaut. Par exemple, les dirigeants d'eBay, de Google et de Facebook financent la création d'un télescope spatial qui vise à répertorier les astéroïdes et les météorites qui menacent de frapper la Terre avec un budget très inférieur à ce que coûterait la mise en place d'un projet similaire à la NASA. Est-ce que ces acteurs privés ne s'engouffrent pas aussi à un moment où, au niveau mondial, à part peut-être la Chine, et encore une fois, le budget scientifique et de recherche de la Chine est assez obscur, mais où toutes les grandes agences de recherche et de développement au niveau étatique, au niveau national, sont en repli, sont en baisse de budget, et donc finalement laissent des trous gigantesques dans la recherche pour justement ces fameux moonshots, Hervé Poirier?
Oui, et pour la fondation Bill Gates, on peut quand même remarquer que Bill Gates a importé dans les associations caritatives la méthode de gestion, la rigueur et la notion d'objectif, enfin une façon de gérer qui vient directement du privé, au service d'une efficacité du traitement de données. Donc le privé peut amener aussi une culture du résultat, une culture de l'efficacité, une culture de la rentabilité de l'argent investi, qui peut aussi avoir une vraie efficacité sur le terrain. Donc en effet, tout n'est pas noir ou blanc. Enfin, tout n'est pas noir ou blanc.
Oui, Loïc Mangeant.
Non, rien de particulier. À part peut-être imaginer pour donc, cette histoire de télescope, par exemple, une espèce de souci d'image malgré tout. Voilà, on n'est pas, on mène aussi des beaux projets de façon complètement philanthrope. C'est clair que ça ne nous rapportera rien. On le fait quand même, vous voyez, on est gentil. Jusqu'où c'est de l'image, de la philanthropie. Un voile caché, non ça, je vais m'en assurer là-dessus.
Vous savez pas comment c'est être compétitif ici.
Oh, j'aime bien.
Un mot peut-être aussi sur la France, sur les grandes causes. On n'a pas vraiment cette culture du moonshot en France, de fédérer d'un seul coup toutes les énergies, tous les financements, une espèce de grand tunnel de partenariat public-privé qui permettrait d'aboutir à un résultat, Hervé.
Téléthon ?
Le Téléthon. Le Téléthon qui est une association. Pour ce serait l'équivalent. Le Téléthon, on n'a pas le monopole en France. Hein, ça existe aussi aux États-Unis. Non, ou d'autres
idées. Au niveau de la France, effectivement, c'est peut-être un peu court finalement maintenant pour des grands projets. On est plus que la 5e, 6e puissance mondiale, donc c'est peut-être un peu court. En revanche, on peut regarder au niveau de l'Europe avec des projets comme Brain ou des choses comme ça, même si ça a été à juste raison un peu critiqué pour des biais de méthodologie.
Alors Brain, redites-nous ce que c'est en quelques mots.
C'était en fait tout simplement comprendre le fonctionnement du cerveau, mais ils avaient une méthode, une approche un peu trop réductionniste si je me souviens bien, et donc plusieurs personnes ont dit que c'était voué à l'échec, quoi, et donc ça a été un peu remis en cause.
Alors,
Sébastien Grassou.
Il faut savoir qu'en France, une partie des financements des laboratoires, elle provient d'appels à projets qui sont gérés par des institutions comme l'Agence nationale de la recherche, que l'ANR, ou l'ERC en Europe. Et ces projets, ils sont classés par ordre de priorité, et donc c'est l'ANR qui décide si ces projets sont financés ou pas. Et le problème, en France, en tout cas, c'est que à peine 10% de ces projets sont retenus pour être financés, ce qui crée pas mal de frustration chez les chercheurs.
Oui, Hervé.
Bon, vous n'avez pas aimé Téléthon, ITER alors.
Non, mais Téléthon, parce que surtout, Téléthon, c'est des fonds, c'est de la manne publique, c'est les gens qui donnent de l'argent, donc c'est pas. Alors ITER.
ITER, le projet, voilà, de, fusion,
ITER, le projet de réacteur de fusion
mondial
dont on parlait ici même mercredi. Voilà. Le projet de réacteur nucléaire de fusion qui est un projet européen situé à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône.
Là, les défis scientifiques et les enjeux sont de loin supérieurs à envoyer des humains sur la belle planète Mars.
Et tout ce qu'on entend là-dessus, c'est les budgets sont dépassés, on n'y arrivera jamais.
Les résultats peinent à venir encore sur la fusion, on a du mal à la contrôler. Bon,
tout le monde savait quand c'était lancé que les budgets allaient être dépassés. Ça continue d'avancer. C'est pour dans 2060. Donc ça me paraît, moi, le moonshot actuellement sur le sol français.
Eh bien, on verra si la France et l'Europe réussissent à accomplir la fusion nucléaire dans les Bouches-du-Rhône.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
United Nations, interrelations, a declaration of hypertension, emerging summits, preemptive plummet. We drop atomic to shooting comets. The controversial, ultra commercial, now universal.
Il est 16h40, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Vous pouvez, comme tous les jours, nous suivre en direct sur Twitter, @laméthodefc. Nous sommes toujours autour de la table avec Hervé Poirier de Science et Vie, Loïc Mangin pour la Science, et Sébastien Caradsou du Sense of Wonder sur YouTube. Le deuxième sujet du jour de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Xavier Martinet en parlait tout à l'heure dans le journal des sciences. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y aurait décidément de l'eau partout dans notre système solaire. Il y en a et il y en a eu sur Mars, il y en aurait sur le satellite de Jupiter Europe, entre autres. La NASA a annoncé en grande pompe, hein, c'était il y a 15 jours, avoir observé des geysers de vapeur d'eau qui sortaient de l'épaisse croûte de glace d'Europe. Il y en aura aussi sur Titan, sur Ganymède, on en passe. Voilà qu'on apprend en tout cas qu'il y en a probablement également sur Dione, qui est un satellite de Saturne. Cette hypothèse de l'eau partout, c'est une hypothèse finalement assez récente, hein, et elle change pas mal de choses dans notre perception de l'univers proche. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Caradsou ?
Bon, alors, en tout cas, la nouveauté, c'est que c'est de l'eau liquide qu'on commence à découvrir partout. Parce que la molécule d'eau, des atomes d'hydrogène et d'oxygène, on les retrouve partout dans l'univers. L'atome d'hydrogène, on la retrouve après 3 minutes après le Big Bang. Et l'atome d'oxygène...
Et c'est l'atome le plus courant dans l'univers.
Et c'est l'atome le plus courant dans l'univers. Il constitue 3/4 de la masse de l'univers visible. Tandis que les atomes d'oxygène, ils sont créés au cœur des étoiles et sont éjectés à la mort des étoiles massives. Donc ça, il n'y a aucune surprise sur le contenu en eau de l'univers. Comment se forme la molécule d'eau ensuite ?
Sauf qu'on savait que c'était de la glace. On pensait que c'était de la glace puisqu'il fait très froid.
Que c'était de la glace. D'ailleurs, le plus grand réservoir d'eau qu'on connaisse de l'univers, il se trouve à 12 milliards d'années-lumière d'ici. C'est un quasar, une espèce de trou noir galactique de 20 milliards de fois la masse du Soleil qui contient 100 000 milliards de fois plus que toute l'eau à la surface de la Terre. Donc l'eau, elle est vraiment partout et elle s'est formée très très tôt après la formation de l'univers. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que l'eau liquide, elle est présente dans le système solaire ? Eh bien oui, on en trouve sous la surface des lunes glacées, on en trouve peut-être même dans les atmosphères des exoplanètes dans le futur proche.
Oui, puisqu'on pense que sur Proxima B, une hypothèse serait que Proxima B, qui est l'exoplanète qui est à 4,5 milliards d'années-lumière de nous, l'une des hypothèses serait que ça pourrait être une planète océan, ou en tout cas recouverte par un océan sur toute sa surface.
Ça reste mais des c'est modèles, et il faut voilà. encore le vérifier c'est avec ça. Des télescopes spatiaux. Parce c'est que les rayonnements infrarouges que la molécule d'eau émet sont bloqués par l'atmosphère, par les hautes couches de l'atmosphère, et donc on ne peut pas les regarder sur Terre.
Mais alors, pour revenir à ma question initiale, c'est que on a toujours lié la présence d'eau à l'émergence de la vie, et on est en train de se rendre compte qu'il y a donc de l'eau strictement partout, ou en tout cas beaucoup plus souvent que ce qu'on imaginait, en tout cas dans notre système solaire. Et ça, mine de rien, c'est quand même une petite révolution dans la façon dont on a pensé la construction des planètes de nos systèmes solaires et de l'apparition de la vie, Hervé Poirier.
C'est sûr que la présence d'eau liquide est la condition majeure de la définition de l'habitabilité d'un endroit. C'est sûrement pas la seule, mais c'est une condition éminemment nécessaire. Ce qui est particulièrement intéressant dans les découvertes récentes, c'est cette eau donc, qui n'est pas à la surface, mais qui est sous des glaciers pour le cas de Dione d'Europe et d'Encelade repose sur un fond rocheux. Or, c'est l'interaction de l'eau liquide et d'un substrat solide qui est le plus propice à cette chimie prébiotique qui donne l'apparition à la vie. Sur Titan ou sur Ganymède, il n'y a pas de fond rocheux. C'est entre des couches de glace. Et là, ça semble beaucoup plus aléatoire de développer de la vie.
Mais je crois que Titan et Ganymède ont par ailleurs malgré tout deux autres avantages. Par exemple, je crois que pour le Titan, il y a une atmosphère qui peut aider au développement de la vie. Et surtout sur Ganymède, enfin tu me corrigeras si je me trompe, il y a une magnétosphère qui peut protéger aussi de rayonnements un peu compliqués. Oui.
Alors Sébastien Caradsou, corrigez-le s'il se trompe. Mais il ne se trompe pas
du tout. Et la particularité de Titan, c'est qu'elle possède elle aussi un liquide à sa surface. Mais ce liquide, ce n'est pas de l'eau. Il y a bien un cycle d'un liquide, mais ce liquide, c'est des hydrocarbures. C'est du méthane et de l'éthane. Et,
ce qui n'est pas très propice pour le coup à l'apparition de la vie.
Eh bien ça, on ne sait pas. Et il faudrait y plonger pour pouvoir le savoir.
Il y avait beaucoup de travaux d'ailleurs il y a quelques décennies sur la chimie dans le méthane liquide. Et j'ai l'impression que ces travaux sont assez en perte de vitesse et que le solvant universel que tout le monde recherche maintenant principalement, c'est l'eau. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur cette vie dans cette vie alternative à la vie dans l'eau liquide. Donc Titan, selon moi, a perdu une part de son intérêt par rapport à Europe qui monte en flèche. Dioné, qu'on vient de découvrir en SLAD, l'eau liquide sur fond rocheux semble les prochaines cibles pour la recherche, enfin l'exploration de la vie dans le système solaire.
Voilà. Alors ça change quand même quelque chose de considérable, outre la façon... Parce que en fait, il y avait deux théories. Il y avait la théorie de l'univers mort, entre guillemets, où la vie serait apparue de manière extrêmement ponctuelle et la vie humaine aurait été une sorte de miracle total. Et puis, il y avait la théorie, l'autre, de l'univers ensemencé, c'est-à-dire où finalement, la vie pouvait apparaître à peu près partout et parfois, de façon plus rare et plus sporadique, se développer et évoluer jusqu'à l'état qui est le nôtre ou jusqu'à des formes un peu plus évoluées. Donc, de l'eau partout tendrait à valoriser en tout cas l'hypothèse de l'univers ensemencé, en quelque sorte, Sébastien Carassou.
Bien entendu, ce n'est pas le seul critère qu'on recherche. Par exemple, quand on regarde des exoplanètes, ce qu'on va regarder, c'est si cette planète possède une atmosphère ou pas. Elle ne peut pas posséder d'océan à sa surface si elle ne possède pas une atmosphère. Et donc, ça va participer, alors ça ne participe pas à l'heure actuelle à la définition du critère d'habitabilité sur les exoplanètes, mais ça participe à la notion d'habitabilité en général. Un autre critère va être l'âge des étoiles, parce que les étoiles évoluent, plus elles évoluent et plus elles sont chaudes. Et donc, par exemple, sur Terre, dans 1 milliard d'années, la Terre sera hors de la zone d'habitabilité du Soleil, parce que le Soleil sera 10% de fois plus lumineux. Et donc, il ne faudra pas s'attendre à trouver grand-chose sur Terre à ce moment-là.
Et c'est d'ailleurs, vous allez en parler bientôt dans Science et Vie de cette hypothèse-là.
Absolument. Ce qui me marque, moi, c'est on se souvient de l'expérience de Miller et la stupéfaction de voir des petits acides aminés qui se mettaient dans une soupe primitive bombardé d'éclairs au sein d'un petit bec benzène. Et Miller avait été estomaqué de dire « Mais regardez, des acides aminés se forment. » Or, 50 ans après, le nombre de conditions dans lesquelles, à partir d'atomes de base, se forment des acides aminés est proprement stupéfiant. On prend une goutte, on prend une comète, il y a moins d'un mois, donc les comètes, on sent que les acides aminés sont là. Donc la facilité avec laquelle la chimie prébiotique se fait en place est, selon moi, une des plus grandes découvertes depuis 50 ans dans la recherche de l'exobiologie. C'est-à-dire que c'est le vrai problème, c'est après de passer des acides aminés aux protéines. Cette étape-là est beaucoup plus compliquée, mais ces chimies prébiotiques...
Dont on a trouvé une trace sur Churi, puisqu'on a trouvé de la glycine, qui est le plus petit des acides aminés. On aurait pu en trouver plus si Philae avait fonctionné, enfin, c'était posé correctement, mais malheureusement, ça n'a pas marché.
Il y avait des fascinants travaux sur les petites bulles et sur la facilité avec laquelle ces petits substrats facilitent cette chimie prébiotique et produit en masse des acides aminés. Pour moi, ça, c'est un vrai argument qui ajouté à la découverte d'eau liquide, montre que la présence de vie dans l'univers, bon sens, et que les probabilités n'ont fait que monter depuis ces dernières décennies.
Et on peut peut-être même imaginer un scénario où l'eau et les éléments prébiotiques se mélangent, puisqu'on peut rappeler que l'eau terrestre a été apporté par des milliards ou des millions peut-être de corps célestes, enfin des comètes et des choses comme ça.
Vraisemblablement pas des comètes du type de Churi, puisque on a découvert que l'eau sur Churi n'avait pas la même signature isotopique que l'eau sur Terre.
Il y a encore un mystère là-dessus. Effectivement, d'autres candidats comme des planètes, enfin des corps un peu comme Cérès par exemple pourraient peut-être mieux coller.
Des astéroïdes, c'est la question maintenant. L'eau terrestre vient-elle des astéroïdes? Sébastien Carassou.
Oui, la théorie concurrente à ce niveau-là, c'est qu'à la formation de la Terre, des particules de glace d'eau ou de gaz d'eau emprisonnées dans des roches se sont dégazées lorsque la planète s'est refroidie, a formé une atmosphère, l'atmosphère s'est remplie d'eau et en se condensant est retombée en pluie torrentielle pendant des millions d'années, ce qui a donné naissance aux océans.
Est-ce que par exemple on peut imaginer que la signature isotopique de l'eau sur ces lunes glacées de Jupiter et de Saturne soit différente de celle de qu'on trouve sur Terre, à votre avis?
Alors ça, j'en sais rien.
C'est une question que je pose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on sait par des études, effectivement, qu'on a pu réaliser sur Terre, que dans des conditions de grande profondeur, c'est ce que vous disiez, Hervé, tout à l'heure, à de grande profondeur près des rifts océaniques, donc à l'endroit où il n'y a pas de lumière, où la pression est extrêmement forte, où il y a du dégazage de roches, enfin bon bref, où on se dit que la vie ne pourrait pas apparaître, et bien même même dans ces endroits-là, très profonds, au fin fond des océans, on trouve des petits organismes vivants.
Pire que ça. Descendez encore de plusieurs kilomètres au sein de la croûte et vous verrez encore de la vie. Ces intraterrestres qui sont vraiment l'autre grande découverte. Enfin, on cherche les extraterrestres, mais on les a trouvés en regardant sous nos pieds et non pas en levant la tête au ciel. Une énorme partie de la vie terrestre est totalement interne au sein de la croûte. On peut imaginer que d'autres planètes. On ne sait pas si c'est pas eux qui étaient là en premier d'ailleurs. Donc la problématique de l'atmosphère n'est pas obligatoirement impérieuse. On peut aussi y avoir une vie à l'intérieur d'une écorce exoterrestre.
Ça, ce serait un moonshot qui aurait de l'allure. Aller s'installer au fond de la mer de façon pérenne, enfin au moins longue, pour étudier ça près, quoi.
On sait que c'est les derniers endroits où, sur Terre, il y aura la vie. C'est là où elle disparaîtra en dernier.
C'est probablement là où elle est apparue en premier aussi.
Ashes to ashes, en quelque sorte. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ces hypothèses de vie. Alors, quand on parle de vie, on entend a priori quoi ? On pense à quoi ? Des organismes monocellulaires, à des organismes multicellulaires ? On peut arriver vers des organismes un peu évolués ? On a des idées de ça, Sébastien Carassou ?
Alors, c'est très difficile à savoir, parce qu'on n'a qu'un seul exemple, qui est la vie sur Terre, pour pouvoir décider. Mais dans les années 70, il y a deux chercheurs américains qui avaient fait un travail de prospective, Carl Sagan et Edwin Salpeter, qui avaient imaginé un écosystème dans l'atmosphère, la haute atmosphère de Jupiter. Alors, ils avaient imaginé un écosystème formé de trois espèces, des petites bulles de composés organiques qu'ils appelaient des plongeurs et qui plongeaient dans les couches basses de l'atmosphère de Jupiter et qui pourraient y mourir. Si ces plongeurs s'aggloméraient pour en faire d'énormes bulles de molécules organiques, ça faisait des flotteurs, des gigantesques bulles d'hélium qui volaient, et puis on avait les chasseurs qui se nourrissaient des flotteurs. Du coup, cette vision, elle est datée maintenant, parce qu'on sait que la turbulence au sein de Jupiter, elle est beaucoup trop grande pour permettre à ce genre de choses d'exister, et donc aujourd'hui, on pense qu'il faudrait une surface pour pouvoir à la vie de se développer.
Mais les chercheurs sont très surpris de voir le peu de temps qu'il y a eu entre l'apparition de la vie cellulaire et vie multicellulaire. On a découvert des vies complexes qui remontent à l'apparition de la vie complexe est beaucoup plus tardive, récente, enfin est beaucoup plus jeune, enfin suit beaucoup plus vite l'apparition de la vie unicellulaire que ce qu'on pensait. Donc cette étape-là qu'on pensait très très complexe, le passer du unicellulaire à multicellulaire, en fait n'est peut-être pas le point le plus délicat à franchir.
Parce que quand on regarde l'arbre du vivant, jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on avait trois branches, archées, bactéries et eucaryotes. Quand on regarde les dernières versions, à la base, c'est infernal, quoi. Ça ressemble plus à une toile d'araignée avec des transferts de gènes dans tous les sens. Donc je pense que c'est très beau, c'est très embrouillé, quoi.
Et puis un tout dernier mot, ce que ça change aussi considérablement pour notre conception de la vie extraterrestre, c'est ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, qu'on pensait être une sorte de zone où la température est acceptable pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface d'une planète autour d'un soleil en fonction de son âge et de son rayonnement, eh bien manifestement il pourrait y avoir de la vie en dehors de ces zones d'habitabilité, Sébastien Carassou.
Si on trouve des exolunes, par exemple les lunes qui tournent autour de planètes géantes hors de notre système solaire, on peut penser qu'un mécanisme de chauffage permettrait à des océans d'eau liquide de se former dans les souterrains de ces lunes. Malheureusement, on n'a pas encore les technologies qui nous permettent d'observer ces exolunes.
Enfin, il est difficile d'imaginer qu'il n'y en ait pas.
Il est difficile d'imaginer qu'il n'y en ait pas. Les lois qui se forment ici sont les mêmes que celles qu'il y a dans le ciel.
Pas de mission pour le moment pour Europe. Ça excite de plus en plus la communauté scientifique, mais il y a des missions à Hervé Poirier.
Il y a non seulement une mission, mais il y a une grosse compétition. 2028, l'Europe compte survoler l'Europe avec le satellite JUICE. 2029 et 2028, les NASA n'ont pas encore voté le financement. Europa Clipper qui se ferait le tour d'Europe aussi. Donc il y a une grosse compétition entre l'Europe et les États-Unis sur la question.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et allez, dans les 5 dernières minutes, on va faire un tour de table de l'actualité scientifique qui, selon vous, est l'actualité à suivre. Elle peut être passée, elle peut être à venir, en tout cas quelque chose qui a retenu votre attention et que vous encouragez nos auditeurs à surveiller, Loïc Mangin.
Moi, je les encourage pas à surveiller, je les encourage à participer. Il reste encore 2 jours pour la fête de la science, donc que tout le monde se précipite. Ça se passe dans tous les lieux possibles de la France. Allez à la rencontre des chercheurs qui vous expliqueront ce qu'ils font, qui vous vous détaillons avec passion leurs travaux, etc. Donc j'ai retenu deux petits trucs, par exemple à l'Institut Henri Poincaré à Paris, donc sur la montagne Sainte-Geneviève, et autour sur le campus il y a une chasse au trésor ce week-end qui est destinée aux enfants, et à Strasbourg il y a un festival de cinéma et d'économie et de mathématiques où à travers les films actuels genre Batman ou Game of Thrones on éclaire des principes économiques et mathématiques.
Sébastien Carassou.
Alors pour moi, c'est la sonde Kaguya de l'agence spatiale japonaise qui explorait l'origine et l'évolution de la Lune entre 2007 et 2009, qui a récemment dévoilé des images spectaculaires de la Terre vue de la Lune, et en très haute résolution. Et pour moi, ces images, elles ont une portée bien au-delà des résultats scientifiques qu'elles peuvent apporter. C'est pas sans rappeler cette photo iconique du lever de Terre d'Apollo 15. Et c'est absolument magnifique, et donc c'est à voir sans attendre.
Et ces photos, on les trouve sur Internet.
Sur Internet,
facilement.
Sonde Kaguya.
Sonde Kaguya. Hervé Poirier.
Moi, au début, je voulais vous parler de la déclaration officielle que la rougeole a disparu dans les Amériques, dans un pays où la France, où l'hésitation vaccinale est plus forte que jamais et plus forte que n'importe où ailleurs dans le monde.
Oui, 41%, on en a parlé lundi. Ouais, j'imagine que vous avez parlé d'un droit de réponse tout à l'heure.
Donc, c'est pour ça que je vous propose plutôt une histoire, moi, qui m'a totalement stupéfié, comme quoi ce mystérieux cycle de 11 ans du Soleil, de l'activité sismique du Soleil, serait en fait dû à nous, à la Terre, en partie avec Mars et Jupiter qui, tout petit qu'il soit par rapport à l'incroyable masse de l'étoile, ont, par des résultats chaotiques assez complexes mais très finement modélisés très récemment, on imprime au Soleil son énorme, cette énorme étoile, un rythme régulier de 11 ans. Il y a la très mauvaise image mais très parlante du papillon qui déclenche une tornade. Et en fait, là, c'est pire, c'est le même papillon qui déclenche tous les 11 ans la même tornade sur le Soleil. J'ai trouvé ça absolument fascinant.
Eh bien, écoutez, on va suivre effectivement. Et puis les images de cette tornade sont absolument, cette espèce d'explosion volcanique sont vraiment absolument magnifiques. Si c'est celle-là dont on parle, j'en ai vu passer cette semaine, elles sont très très belles. Et puis, je vous rappelle, puisque Loïc Mangin évoquait la fête de la science, que vous pouvez toujours prendre vos places pour une conférence que va donner le camarade Étienne Klein, que vous connaissez, qui anime tous les samedis à 14h la conversation scientifique. Étienne Klein sera, lui, demain au Théâtre de l'Odéon pour un premier cycle de conférences et de lectures, avec notamment Jacques Trainer sur le thème « Einstein a-t-il inventé la bombe atomique ?» Vous pouvez prendre vos places sur le site franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette invitation pour parler de l'actualité des sciences et de la recherche. Loïc Mangin, la couverture de Pour la Science ce mois-ci.
Alors moi je m'occupe des dossiers, donc je vais avoir du mal à vous répondre.
C'est sur les paléomammifères, je le sais, parce qu'on en parle lundi.
D'accord, voilà. Mais sinon il y a le dossier pour la science qui sort sur la physique quantique, que je vous engage
très complet à lire. Si vous voulez bien comprendre tout ce qui se passe autour de la physique quantique et les dernières études et les dernières recherches qui sont menées, le dossier pour la science est effectivement très complet. Sébastien Carassou, la vidéo. La dernière vidéo de
Sunset Founder. Il ne faudra pas être trop pressé, mais disons qu'on est dessus.
Vous êtes dessus. Celle d'avant, alors celle qu'on peut voir encore.
Celle qu'on peut voir encore, elle est sur les trous noirs. D'accord. Et voilà.
Et la couverture de Science et Vie, Hervé Poirier.
Le destin de la Terre dans 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards et plus.
Ça, ce sera pour le mois de novembre. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, de la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Joël Le Guéhennec et Cyril Zvetosevic au droit d'auteur. Et puis, un petit coup d'œil tout de même à ce que nous vous avons concocté pour la semaine prochaine. Lundi, on parlera donc des paléomammifères. Mardi, de l'impact du réchauffement climatique sur les pôles. Mercredi, nous parlerons de l'explosion de la réalité virtuelle. Mardi, des 350 ans de l'Académie des sciences. Et vendredi, ce sera notre rendez-vous science-fiction mensuel avec, la semaine prochaine, l'éveil d'une conscience artificielle. Dans un instant, le magazine de la rédaction d'Antoine Marette. Et nous, eh bien, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.